18h à Niamey, vous êtes à l'écoute de Studio Kalangou à travers nos radios partenaires. Tout de suite, le journal en français avec Raïla Toussoumana. Le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kinshasa et ses coordinations régionales réaffirment leur départ de la majorité présidentielle et démentent tout ralliement à l'opposition. Un départ qui serait stratégique selon l'analyse d'un observateur à suivre dans ce journal. Femmes, paix et sécurité est le thème d'un forum organisé ce matin à Niamey pour marquer la fin des exercices militaires conjoints contre le terrorisme Flintlock 2018 de Niamey. En partie magazine, nous irons à Filingué, région de Tillabéri, pour parler de Docking Iska d'un Filingué. En français, cheval rapide comme le vent, un étalon de course mystérieux aux multiples palmarès. Messieurs, dames, bonsoir. La longue interruption hier après-midi de la fourniture d'énergie électrique constatée dans les régions de Dosso, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zender n'a pas permis aux radios partenaires de Studio Kalangou de relayer ses programmes. Selon un communiqué de la Nigérienne d'électricité, ces coupures sont dues à un effondrement du réseau de la Transmission Company of Nigeria, TCN, la société d'électricité de la République fédérale du Nigeria. Le bureau politique national du mouvement patriotique nigérien MPN Kinshasa, élargi aux coordinations régionales, a réaffirmé le retrait du parti de la mouvance présidentielle tel que notifié au Premier ministre le 11 avril dernier par le président du dit parti. Dans sa déclaration d'hier après-midi à Niamey, le bureau politique du MPN a démenti avoir un quelconque lien avec l'opposition dans le combat ainsi engagé. Un extrait de cette déclaration lu par le député Abdraman Oumarou recueilli chez nos confrères de Labari.
Le MPN Kinshasa rappelle qu'il a déjà signifié officiellement, et cela depuis un an déjà, que le nouveau code électoral n'est pas en mesure d'assurer la transparence et l'équité du processus électoral dans notre pays. Il considère que ce code électoral, tel qu'il est conçu et adopté, est de nature à garantir un verrouillage systématique du processus électoral. Notre projet au MPN Kinshasa est celui d'une démocratie et d'un état de droit qui garantissent le respect et la sincérité du vote populaire. Pour défendre et préserver les acquis démocratiques de notre pays, l'insensibilité des gouvernants à toute opinion contraire nous impose désormais de porter notre combat hors des rangs de la majorité présidentielle. Le bureau politique national du MPN Kinshasa réaffirme le retrait du MPN Kinshasa de la majorité présidentielle. Les membres du bureau politique national saluent et restent fiers pour leur dévouement et leur travail accompli par les camarades qui étaient membres du gouvernement.
Le président du MPN Kinshasa, Ibrahim Yakuba, a démissionné du gouvernement, du moins c'est l'annonce faite par l'intéressé sur Twitter. Il ajoute que son parti, le MPN, quitte l'alliance des partis au pouvoir. Pour Sidik Ali, journaliste analyste politique, ce départ pourrait s'inscrire dans un agenda bien planifié d'Ibrahim Yakuba en tant que leader politique ambitieux qui veut profiter du contexte politique actuel. Sidik Ali, joint au téléphone par Alassane Kouzi Mahamadou.
N'oubliez pas que 80 à 90% des militants de Kinshasa, c'est des jeunes. D'un côté, il y a aussi cette puissance financière composée en grande partie de cet élève douanier avec qui il avait gardé des relations, de très bonnes relations. Ça répond vraiment à un agenda, celui de se positionner très tôt sur la scène politique, surtout au regard de deux événements majeurs qui viennent de se produire récemment.
Lesquels?
L'arrêt de la Cour, par exemple, qui a mis à terre les ambitions présidentialistes de M. Mahamadou. L'enjeu, c'est que Lumana se trouve du coup orphelin et leur président est disqualifié. Donc, il y a tout un monde très actif qui est là, qui a vraiment besoin de récupérer. De l'autre côté aussi, récemment, vous vous souvenez ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup des acteurs de la société civile qui se trouvent présentement incarcérés. Le secteur est presque un peu désarçonné. Il a compris que ce monde aussi a besoin vraiment d'être récupéré, d'être encadré. Voilà.
En bref, le député Abdoulabo du parti CDS Rahma, déchu de son mandat de parlementaire par un arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 10 avril 2018. La Cour constitutionnelle a constaté la vacance de son siège au Parlement suite à sa condamnation à 1 an d'emprisonnement ferme pour recel d'enfants. Il a aussi été remplacé par son suppléant Mahamad Lawali Boukhari par arrêt numéro 002/CC/ME du 10 avril 2018. À noter que le député déchu Abdoulabo avait déposé sa lettre de démission sur le bureau du président du Parlement nigérien depuis le 30 mars, invoquant des raisons d'ordre personnel. Je l'ai annoncé en titre, en marge des exercices militaires conjoints contre le terrorisme Flintlock édition 2018, les opérations au titre de la zone de Niamey ont pris fin avec l'organisation d'un forum ce matin au Palais des Congrès de Niamey avec pour thème « Femmes, paix et sécurité ». Les structures féminines et les membres de la société civile discutent des voies et moyens pour lutter contre la montée des menaces terroristes et sécuritaires qui entravent le développement et la cohésion sociale. Gungu Mamman Dantani s'est entretenu avec la colonelle Catherine Graff de la direction de soutien logistique du commandement spécialisé de l'armée américaine pour l'Afrique que je vous propose d'écouter.
C'est une conférence qui est axée plutôt de l'intégration des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent. La manière dont nous pouvons intégrer les forces de sécurité et d'autres activités, c'est-à-dire une approche interministérielle qui implique tous les éléments du gouvernement pour faire face et résoudre les défis qui posent sur le terrain, des approches qui impliquent non seulement les hommes et les femmes, mais des personnes âgées, des jeunes, pour que nous puissions trouver des solutions à long terme aux défis complexes actuels. C'est l'essentiel du SOCAF. Ça, c'est un concept très important pour le commandement des États-Unis et le commandement des opérations spéciales pour l'Afrique.
Visite hier à Agadez d'une commission du commissariat aux réfugiés UNHCR dans le but de rencontrer les autorités locales et les ressortissants soudanais arrivés de la Libye. Une façon de mieux comprendre ce mouvement afin de trouver des solutions. Vincent Cohen, chef de la mission, au micro d'Anissé Karim.
Le motif de la visite ici aujourd'hui, on pense qu'il y a un certain nombre de tensions avec la population locale qu'il faut régler. Il faut séparer parmi ces populations soudanaises ceux qui sont des civils et peut-être des réfugiés de celles qui pourraient être d'anciens miliciens ou des gens qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Donc on est là pour conseiller les autorités et les assister dans la mise en œuvre de solutions qui doivent être diversifiées. Très rapidement, la mise en place d'un centre d'accueil peut-être un peu en dehors d'Agadez, de façon à ce que certains problèmes de tension pour l'instant à l'intérieur de la ville, entre la population locale et une partie de cette population soudanaise soit réglée. Et puis un travail après de fond qui doit se faire aussi avec les forces de sécurité, avec les renseignements, de façon à pouvoir bien distinguer qui est qui dans cette population. Il y a vraiment des gens qui sont victimes d'exactions en Libye, qu'il faut protéger et qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. Et puis il y a d'autres personnes qui sont peut-être des gens qui ont commis des atrocités en Libye et qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire de la République du Niger.
C'était Vincent Cohen, chef de la mission de l'UNHCR, propos recueillis par Anissé Karim. De nos jours, avec l'avènement du téléphone mobile, ils sont peu nombreux ceux qui portent encore la montre pour lire l'heure, les jeunes notamment. Comment se porte le commerce des montres à Niamey et pourquoi porter une montre? La réponse dans ce reportage. En or, en fantaisie, avec un bracelet synthétique ou en cuir, la montre, les uns et les autres la portent différemment, soit pour avoir l'heure ou juste comme ornement au poignet pour affirmer sa personnalité.
C'est élégant d'avoir une montre au poignet, surtout si elle est de valeur. On prend toujours ça avec plaisir.
C'est seulement quand on a devoir que je porte la montre pour consulter l'heure.
Le commerce de cet accessoire n'est pas aussi florissant à cause du manque d'argent, selon ce commerçant, qui impute aussi cette mévente à cause du téléphone portable qui d'office peut afficher l'heure.
Les temps passés ne sont même pas à comparer à ceux d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des jours où on ne vend aucune montre. Vraiment, c'est pénible.
Mais pour Aminatou Munkaila, le commerce des montres marche plutôt bien. Elle fait du e-commerce sur WhatsApp et Facebook.
J'arrive à tirer mon épingle du jeu. Je vends aux femmes des ensembles montres, boucles d'oreilles et chaînes. Quant aux hommes, ils commandent des marques de qualité.
Certes, cet accessoire qu'est la montre a peut-être perdu de sa superbe avec l'évolution de la technologie, mais elle continue à résister au temps.
Découverte d'un nouveau site aurifère à 21 km au nord du chef-lieu de la commune de Dabaga, région d'Agadez. Ce sont des jeunes de la zone qui ont alerté les autorités. Un afflux massif de la population est déjà constaté sur le site et un comité de gestion a été mis en place selon Guissa Mohamed, secrétaire général de la mairie de Dabaga.
Depuis qu'il y a l'apparition des sites dans le nord, ils sont venus à Dabaga pour nous dire qu'il y a découverte de l'or à Chine. C'est en ce temps donc que j'ai informé les maires de la commune et on a organisé une mission dès avril avec les maires, dès nos conseillers élus et en plus les chefs de village de Dabaga pour aller constater réellement qu'il y a l'existence de l'or. Et notre constat, c'est que quand on est venu sur le site, on a découvert vraiment une population importante venue de tous les horizons des communes voisines qui sont partis sur le site à la recherche de l'or. Réellement, on a vu l'or avec les gens qui l'ont extrait. Il y a beaucoup de gens qui sont partis là-bas. On s'est transporté sur le site pour essayer d'organiser en créant un comité de gestion du site.
Guissa Mohamed, secrétaire général de la mairie de Dabaga, propos recueillis par Moussa Maman.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
18h passées de 11 minutes, place à présent à la partie magazine de cette édition. Docking Iska Danfilenge, autrement dit le cheval rapide comme le vent, est un étalon au palmarès inégalé sur les circuits des hippodromes du Niger et du Nigeria voisin. Pour tenter de percer le mystère de Docking Iska Danfilenge, nous avons rencontré à Filenge le fils du propriétaire Boubacar Namera qui témoigne au micro de Gungu Mahamman.
Par rapport à Docking Iska, on a approché ceux qui ont connu le cheval. Ils nous ont dit ce qu'ils ont pu retenir du cheval. Une des familles où le cheval a séjourné, les enfants de cette famille-là sont vivants. Donc, il semblerait que le cheval de la race, par exemple, une race reconnue pour la course, il est arrivé à Filenge par le biais d'un griot. C'est lui, dans ses sorties, il a eu ce cheval-là. Il est venu avec à Filenge. Le cheval, de par sa corpulence, il est mal formé. Il a une robe qui n'est pas du tout attrayante. Donc, c'est un cheval, disons, qui n'est pas très joli à voir. Donc c'est ce qui a fait qu'il a voulu s'en débarrasser. Selon encore toujours l'histoire, premièrement c'est une femme du nom de Tama qui l'avait payé. Elle-même, elle a dû le revendre à un commerçant du nom de Alhaj Abouba Ahmed. Bon, c'est là où le cheval a commencé à courir. Ils ont trouvé que c'est un cheval qui peut faire la course. Et à Tonfa, il semblerait aussi qu'il y a un autre coursier. Et l'histoire a fait que ce cheval-là a eu sa première sortie avec le coursier de Tonfa. Le fait qu'il l'ait battu a dû provoquer des petites cisanes entre les deux familles. Et c'était au temps du chef de canton Malla. Quand l'histoire est arrivée au niveau du palais royal, donc le chef, pour séparer les deux, il a demandé de reprendre la course. Et le cheval, amplement, il a battu le second cheval. Et c'est comme ça que le nom du cheval a commencé à sortir. Donc, dès qu'on organise une course, c'est lui qui remporte. Le chef de canton Malla a dû aussi acheter le cheval des mains de l'âge Abouba. Et il l'a gardé pour l'avoir connu coursier. Et entre-temps, il y avait des rapports, des relations entre le Kourfey et Argung sous la demande du roi de Argung. Il a demandé au chef de canton de Filenge de lui envoyer des coursiers et le chef de canton a dû envoyer 3 chevaux et parmi ces 3 chevaux, il y a le cheval là qu'on a après appelé Docking Iska. Docking Iska, c'est après, c'est quand il aurait battu tous les terrains du Nigeria, c'est là que le chanteur Narambada l'avait nommé Docking Iska. Mais quand il a quitté ici, c'est un coursier reconnu, mais on ne l'appelait pas Docking Iska. C'est au Nigeria qu'il a eu ce nom-là. Au début aussi, il a été négligé au sein même de la famille royale de Argungula. Mais c'est après avoir couru aussi qu'il a été apprécié. Il y en a qui ont dit qu'il est parti courir en France, en Angleterre, tous les records au niveau du Nigeria. Donc c'est comme ça un peu l'histoire du cheval Docking Iska.
C'est avec l'historique de Docking Iska de Filenge que prend fin ce journal. Place à présent au forum de la presse avec Mokhtar Hamadou. Au revoir.